Radio Kapi.
Le journal Gisèle Cage.
Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. L'actualité n'attend pas et Radio Kapi vous en présente le temps fort de ce dimanche à la une de cette édition. Ebola en Ituri, la MONUSCO renforce les boucliers de prévention, sensibilisation de proximité, suivi des interventions et engagement renforcé sur le terrain. La mission intensifie son soutien pour contenir la menace et sauver des vies. Béni, coup de pouce à plus de 4000 ménages agricoles, une opération menée par une ONG canadienne en partenariat avec l'ONG Mavuno pour soutenir la relance agricole dans une région durement affectée par l'insécurité. Maniema mise sur le café, le cacao pour relancer l'économie. Invité du journal, John Hassan Emilimo, directeur de gestion de la coopérative Tujenge, revient sur le potentiel des cultures pérennes et les stratégies mises en place pour accompagner les producteurs. Un nouveau drame routier plonge des familles dans le deuil. Au Lualaba, 13 personnes ont été tuées dans un accident de circulation enregistré samedi dans les territoires de Louboudi. Alors que le camion impliqué est toujours renversé sur place, les autorités redoutent un bilan plus lourd. Les recherches se poursuivent pour déterminer si d'autres victimes sont coincées sous l'épave. Ce drame, le énième sur cette route, ravive les préoccupations liées à la sécurité de transport dans la province. Les explications de l'administrateur du territoire de Louboudi, Jean-Paul Lacou, joint par Jean Gando.
Le camion provenait de Mbujimayi vers le Haut-Katanga à Lubumbashi. Arrivé au niveau de 10%, c'est à 35 km de Louboudi cité, Louboudi chef-lieu, vers Ngouba, que le chauffeur a perdu le contrôle de son camion et il s'est jeté dans un petit ravin qui était juste à côté. Et avec une erreur de vitesse, c'est comme ça qu'on a connu cet accident. Il y a un bilan provisoire de 13 morts et 35 blessés graves qui sont tous acheminés à Louboudi chef-lieu pour les soins éventuels. Et les corps sont en train d'être acheminés pour être gardés à la morgue en attendant que la province puisse nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est un peu ça le bilan jusque-là.
Après ce drame qui a endeuillé le Lualaba, place à présent à un autre défi majeur, la préservation de la santé des populations. En Ituri, la vigilance reste de mise face à la menace persistante du virus Ebola. Pour renforcer la prévention et protéger les populations, la MONUSCO intensifie son soutien aux efforts de riposte. Cette semaine, à Djipi, dans la chefferie des Baéma Nord, les casquets bleus ont mené de séances de sensibilisation auprès de communautés sur les mesures de prévention. Dans le même temps, le commandant de la force de la MONUSCO s'est rendu à Mungwalu pour évaluer les actions engagées sur le terrain et réaffirmer l'engagement de la mission aux côtés des autorités et des populations. Les détails avec Jean-Claude Lokidile.
À Djipi, dans la chefferie des Baéma Nord, les casques bleus de la MONUSCO ont organisé une campagne de sensibilisation au danger de la maladie à virus Ebola. Les habitants ont été informés sur les principaux signes de la maladie, les mesures de prévention, les règles d'hygiène, ainsi que sur l'importance du signalement rapide des cas suspects aux services de santé. Pour renforcer les liens entre la mission et la communauté, une activité sportive a également réuni les jeunes du village et les casques bleus. Les autorités locales ont salué cette initiative et réaffirmé leur engagement à relayer les messages de prévention auprès de la population. Le 21 juillet, le commandant de la force de la MONUSCO, le général Ulysses de Meshkita Gomesh, s'est rendu à Mungwalu où la mission a établi une base opérationnelle temporaire. Cette visite visait à évaluer les mesures mises en œuvre par les casques bleus pour soutenir les autorités sanitaires tout en poursuivant les opérations de protection de civils. À travers ces actions, la MONUSCO réaffirme son engagement à accompagner les autorités congolaises dans la prévention des risques sanitaires et la protection des populations de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
De la lutte contre les menaces sanitaires à la relance des activités agricoles cap à présent sur le territoire de Béni. Dans les territoires de Béni en Nord Kivu, plus de 4000 ménages agricoles bénéficient depuis jeudi d'une distribution des semences pour relancer leurs activités et renforcer leur sécurité alimentaire. Financée par l'organisation canadienne Resins et Village et mise en œuvre par l'ONG nationale Mavuno, cette initiative vise à soutenir les agriculteurs confrontés aux conséquences de l'insécurité et des difficultés économiques qui ont durement affecté la production agricole dans la région. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Au total, 4044 ménages agricoles de la commune rurale de Lumé et du secteur de Wenzori sont concernés par cette distribution des semences. L'opération couvre 3 aires de santé, Lumé, Mutonga et Rugeti. Les bénéficiaires reçoivent notamment des semences de haricots, d'arachides, de soja et de maïs selon les zones. Les villages bénéficiaires de cet appui sont entre autres Kibanda, Kidole, Lumé, Kivisire, Kivaitaen ou encore Rugeti. Pour l'ONG Mavuno, cette initiative vise à permettre aux agriculteurs de reprendre leurs activités champêtres et à améliorer progressivement la production vivrière dans cette partie du territoire de Béni. Dans cette région, les producteurs restent confrontés aux conséquences de l'insécurité et aux difficultés d'accès aux intrants agricoles. La société civile locale appelle les bénéficiaires à utiliser les semences uniquement pour les cultures en fait d'en garantir les résultats. Béni. Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et si chaque habitant devenait le premier gardien de l'environnement, à Goma, une nouvelle étape vient d'être franchie avec l'adoption de la toute première charte écologique de la ville. Gestion responsable des déchets, plantation, entretien d'arbres, protection du cadre de vie. Ces documents adoptés samedi par l'ensemble des parties prenantes entendent faire de chaque citoyen un acteur du changement face aux défis environnementaux du Nord Kivu. Au-delà des gestes du quotidien, ces initiateurs portent une ambition plus grande encore, faire reconnaître Goma comme un patrimoine écologique commun de l'humanité en s'inspirant notamment de la vision du couloir vert Kivu-Kinshasa. Les explications de Prince Kiyangi, coordonnateur de l'organisation Les écologistes RDC au micro de Rosalie Zawadi.
L'État congolais a cru qu'il pouvait devenir un modèle de conservation à travers le monde. Et voilà pourquoi il a créé le couloir vert Kivu-Kinshasa. En fait, pour attirer l'attention de l'humanité sur les besoins de conservation entre le Kivu et Kinshasa. Et nous, au niveau de la ville de Goma, nous avons cru que la ville de Goma devait attirer l'attention de l'humanité. Comme nous avons été reconnus comme ville touristique de la République démocratique du Congo, c'est important aussi que sur le plan international, on nous reconnaisse la qualité de patrimoine commun écologique de l'humanité. Parce qu'une fois Goma est proclamé patrimoine écologique commun de l'humanité, c'est que toute l'attention de l'humanité sera portée sur la ville de Goma. Et toute personne qui va s'hasarder à pouvoir détruire l'aspect écologique de la ville de Goma, en tout cas, ce ne sera pas non seulement les habitants de la ville de Goma qui allons nous attaquer à ces délinquants, mais plutôt c'est toute la communauté internationale qui va devoir se liguer autour de cette action qui vise à écarter la ville de Goma de toutes ces menaces qui pèsent sur la ville.
La dynamique est déjà lancée. À ces jours, 70 organisations basées à Goma soutiennent cette charte écologique, parmi lesquelles des écoles, des universités, des églises, des entreprises, ainsi que plusieurs associations engagées dans la préservation de l'environnement. Un réseau d'acteurs qui ont offert de la ville un modèle d'engagement écologique. Au Sud Kivu, la sensibilisation des communautés passe aussi par le renforcement des connaissances sur le droit des femmes. À Bunyakiri, dans le territoire de Calais, 25 leaders communautaires viennent de bénéficier d'une formation sur la protection des droits des femmes, la lutte contre les mutilations génitales féminines, ainsi que les dispositions relatives à l'avortement médicalisé prévu par le protocole de Maputo. Une initiative du club des filles reporters de la RDC mise en œuvre dans la zone des santé rurales de Bunyakiri, avec pour objectif de faire des acteurs locaux des relais de sensibilisation au sein de leur communauté. Le point avec Ronelyne Timonera.
Organisée autour du thème de la vulgarisation du protocole de Maputo, cette rencontre tenue vendredi et samedi a réuni les autorités locales, des acteurs de la société civile, des défenseurs de droits humains, des leaders religieux, des femmes militaires ainsi que de représentants d'organisations des personnes vivant avec handicap. Selon Simo Weteshimiona, coordonnateur du club des filles reportées de la RDC, la faible connaissance du contenu du protocole de Maputo au sein des différentes couches de la population justifie cette initiative. Il espère qu'à travers les leçons apprises, les leaders communautaires contribueront à leur tour à la vulgarisation de cet instrument juridique auprès des populations. Au cours de cette session, Maître Thomas Zirimobagabo Bakenga a abordé les notions générales introductives relatives au contenu du protocole de Maputo, un instrument juridique régional consacré à la promotion et la protection des droits des femmes en Afrique. Le protocole de Maputo existe depuis longtemps, mais dans la zone de santé rurale de Bunyakiri, on n'en connaissait pratiquement rien jusque-là. Il était donc important de faire un aperçu général du protocole, d'identifier les instruments juridiques nationaux et internationaux qui en constituent les fondements et d'expliquer les rôles dans la protection des droits humains, en particulier ceux de femmes, a expliqué Maître Thomas Rimobagabo. Le club des filles reportées de la RDC est une association sans but lucratif des droits congolais basée à Bunyakiri dans la province du Sud-Kivu.
Faire émerger une véritable classe d'entrepreneurs congolais, c'est le défi que s'est fixé la nouvelle direction de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Investi de cette mission, le nouveau directeur général de l'institution entend faire de la loi sur la sous-traitance un puissant levier de promotion des entreprises congolaises. Face à la presse, ce samedi à Kinshasa, Ted Beleshai a promis une gestion rigoureuse et s'est montré ferme envers les sociétés accusées de contourner l'esprit de cette loi au détriment des entrepreneurs nationaux. Des déclarations sélectionnées par Jérémy Baraka.
Le président m'a dit que je dois être ferme parce que les gens sont mal habitués, les sociétés principales sont mal habituées à rouler les Congolais, à contourner la loi. Sur ce point, je dois être vraiment intransigeant pour que cette fois-ci, la loi sur la sous-traitance soit un vrai levier pour la promotion d'une vraie classe des entrepreneurs congolais. Au moment venu, je veux lui présenter une feuille de route claire parce que je viens juste de prendre mes fonctions. Il est temps pour moi de faire l'état des lieux et de comprendre l'entité, de la maîtriser. Je veux revenir auprès de son autorité pour ça.
Un signal fort contre les abus qui pèsent sur la mobilité et l'économie locale en Ituri. Le gouverneur militaire de la province a ordonné la suppression des barrières illégales et la fin des tracasseries dénoncées depuis plusieurs années par les populations et les opérateurs économiques. À travers une note officielle devenue virale depuis samedi, il charge les responsables militaires, policiers et administratifs de faire appliquer cette mesure sur l'ensemble de grands axes routier, une initiative saluée par la société civile, notamment à Mahagi, où les citoyens continuent de réclamer des actions concrètes contre les rackets qui contribuent à appauvrir davantage des communautés déjà affectées par l'insécurité. Les précisions d'Isaac Remoyope.
Des barrières illégales sont installées sur plusieurs axes routiers de l'Ituri, notamment Bunyakasenye, Nyankonde, Komandamagi et Arou. À ce point de contrôle, des militaires et des policiers imposent aux conducteurs des motos et des véhicules des paiements de 500 000 francs congolais, parfois tous les 100 km. Une pratique dénoncée depuis des années par les usagers. À Mahagi, cette situation a provoqué la colère des jeunes qui ont démantelé plusieurs barrières avant d'être dispersés par la police. La société civile avait ensuite décrété une journée ville morte pour dénoncer ces raquets. À la suite de cette mobilisation, le gouvernement militaire a ordonné la suppression des barrières illégales et l'ouverture d'enquêtes permettant ainsi la reprise des activités. 24 heures plus tard, il a étendu cette mesure à toute la province. Les commandants militaires, les administrateurs des territoires et les maires des Bounia sont chargés de son application. Tout contrevenant s'expose à des poursuites devant la justice militaire, indique la circulaire. Cette décision est saluée par les organisations citoyennes et les usagers de la route. Toutefois, beaucoup restent prudents et attendent sa mise en œuvre effective. Il rappelle que des mesures similaires ont toujours été annoncées par des autorités militaires et gouverneurs successifs sans grand effet. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À Kolwezi, dans la province du Lualaba, le calme est revenu après une poussée de violence survenue samedi au quartier Kanina, dans la commune de Dilala. Des violents affrontements ont opposé des groupes rivaux, jeunes délinquants, communément appelés Kiongozi, sémant la panique parmi les habitants. Les forces de sécurité sont rapidement intervenu pour établir l'ordre et ramener le calme dans la zone. Aucun bilan officiel n'était toutefois disponible au moment de la mise sous presse. Le point avec Paulin Monanga.
Aux premières heures de la matinée d'hier samedi, des groupes de gangs rivaux s'affrontent à coups de projectiles. D'importants dégâts matériels sont enregistrés. Les activités commerciales ainsi que la circulation sont paralysées, rapportent des sources locales. Des groupes de jeunes se livrent à des actes de vandalisme. Ils caillassent des véhicules et des maisons des particuliers, brûlent des pneus, barricadent l'axe Istem Centre-Ville et pillent des commerces sur l'avenue Sendoué selon des témoignages recueillis sur place. La police et les FARDC interviennent et tirent des balles pour disperser les manifestants et rétablir l'ordre public. Nous apprenons que plusieurs fauteurs de troubles ont été interpellés et le calme est revenu. Les habitants de ces quartiers appellent les autorités à renforcer les dispositifs de sécurité afin de rétablir un climat serein dans cette partie de la ville de Kolwezi. Aucune réaction pour le moment des autorités de la ville. Depuis plusieurs mois, beaucoup de quartiers de Kolwezi sont le théâtre d'affrontements entre groupes de jeunes délinquants. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Et si la véritable richesse d'un pays se trouvait d'abord dans l'épanouissement de ses citoyens, à Kinshasa, le débat sur le développement humain intégral était au cœur du baptême d'un nouvel ouvrage consacré à la pensée du philosophe et théologien Bernard Lonergan. Pour le professeur Abbé Léonard Santemi, recteur de l'Université catholique du Congo, la croissance économique à elle seule ne suffit pas à garantir le progrès d'une nation. L'auteur du livre, le professeur Ferdinand Mouigiroa, plaide pour une RDC bâtie sur la solidarité, le travail collectif et le respect de la dignité humaine. Des propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Mon auteur, Bernard Lonergan, estime que c'est la fusion, la conjugaison, la complémentarité, l'intégration de ces deux voies, la voie ascendante et la voie descendante, qui va promouvoir le développement humain, véritable développement humain intégral. Alors, dans les cas de notre pays, quel type de développement? Je crois qu'il nous faut un développement intégral. Comme on l'a dit tantôt, il ne s'agit pas seulement de construire. Le développement, ce n'est pas seulement la verticalité. Nous sommes tous tournés vers un absolu, vers un Dieu. Ce n'est pas simplement l'extériorité, c'est l'intériorité. Ce n'est pas simplement l'humanité, mais nous sommes tous habités par la transcendance, par le dépassement de nous-mêmes. Et je crois que si nous conjuguons ces différents types de développement, notre pays peut sortir, peut aller de l'avant, peut émerger et devenir une très très grande nation avec tout ce que nous avons comme potentialité. Et il nous faut alors travailler ensemble, la main dans la main, avec ce regard vers le progrès humain intégral.
Le devoir de développement humain intégral, selon Bernard Lonergan, est un ouvrage de 266 pages publié dans la collection Effacée, série numéro 08. Son baptême a réuni à Kinshasa plusieurs autorités académiques, scientifiques et religieuses, ainsi que des chercheurs et enseignants témoignant de l'intérêt suscité par cette réflexion sur les développements centrés sur la personne humaine.
Actualité internationale.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé dimanche à la levée immédiate de l'ensemble des sanctions imposées à la Syrie durant le régime de l'ancien président Bachar al-Assad. Cette déclaration est intervenue à l'issue d'une visite officielle de 2 jours à Damas, où le chef de l'ONU a échangé avec les autorités sur les défis de reconstruction et de relance économique du pays, tout en saluant les mesures déjà prises par certains partenaires internationaux pour alléger les restrictions et favoriser la reprise des activités économiques. Antonio Guterres a estimé que ses efforts devaient aller plus loin. Je salue les mesures qui ont allégé les sanctions et ouvert de nouvelles possibilités pour une reprise de l'économie, mais toutes ces sanctions doivent être immédiatement levées, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans la capitale syrienne. Selon le secrétaire général des Nations Unies, la levée complète des sanctions contribuerait à accélérer le redressement économique du pays et à améliorer les conditions de vie de la population syrienne.
L'invité.
Comment faire des cultures pérennes un moteur de développement économique au Maniema? C'est l'un des défis que relève la coopérative Tujenge Active dans les secteurs du palmier à huile, du café et du cacao. Son directeur de gestion, Jonathan Imilimo, est notre invité. Il revient sur les efforts menés pour encourager les communautés à investir dans ces filières porteuses et créatrices de revenus. Entretien conduit par Florence Kizalunga.
Hassani Milimo John, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Votre société coopérative existe au Maniema depuis 2023. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous faites?
Merci beaucoup Madame la journaliste. Notre coopérative existe au Maniema depuis 2023 avec nos activités dans le cadre de cacao, café et palmier à huile. Et avec ces trois spéculations que nous avions choisies, nous avons déjà fait quelque chose et que ça nous permet d'avancer de l'avant. Et nous avons des variétés. Au niveau de cacao, nous avons trois variétés. Nous avons les Trinitario, nous avons la Forestero, nous avons les Criollo. Au niveau de palmier à huile, nous avons aussi trois variétés. Nous avons Dura, Piscifera et Tenera. Quand nous avons pris Dura et Piscifera, nous avons trouvé que la production a baissé. C'est ainsi que nous avons adopté la variété nouvelle qu'on appelle Tenera F1, qui nous permet de produire beaucoup. Mais pour les cafés, nous avons les Robusta et l'Arabica. Ce sont des variétés qui nous aident à faire le travail.
Depuis 2023, est-ce que vous avez déjà commencé la production?
Oui, effectivement, Madame la journaliste. Nous avons déjà commencé la production. D'ailleurs, en 2025, nous avons publié notre statistique. Pour les cacao, nous avons produit 18 tonnes. Pour les cafés, nous avons produit 6 tonnes. Et pour les palmiers à huile, nous avons produit 8 tonnes de production. Mais qui souffre parce que c'est une petite production, une production à petite échelle. Mais pour les cacao, nous avons un problème parce que avec la vente, ça pose au moins des problèmes. Parce que nous n'avons pas de partenaires pour acheter ça. Et comme beaucoup de gens voulaient que nous puissions avoir autant de tonnes, nous avons un problème où nous devons faire avancer les choses pour que nous puissions produire beaucoup et pour que nous ayons des partenaires pour venir acheter.
Est-ce que vous faites aussi la transformation de toutes ces productions?
Oui, Madame la journaliste. Quand nous avons trouvé que ça traîne chez nous après la production, nous avons pris l'initiative de commencer la transformation à petite échelle. Par exemple, avec les cacao, nous sommes dans la phase de transformation en ayant la poudre de cacao pour la consommation comme du café. Et nous extrayons aussi des beurres qui est considéré comme l'huile de cacao. Et nous avons aussi une petite pommade que nous faisons sortir à partir de l'huile là. Nous combinons avec le miel et ça nous aide à faire une petite pommade qui fait sortir des galles ou soit des taches au niveau de face. Et pour les cafés, nous faisons la transformation locale où nous avons la poudre de café que nous vendons dans des points de vente des cafétérias où ils sont en train de boire et les gens nous achètent et nous disons que bon, ça passe comme ça. Parfois, nous vendons des graines parce que nous savons que nous n'avons pas encore un marché compte tenu des moindres capacités de production.
Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'exporter vos productions?
Ah oui, Madame la journaliste, ce qui nous empêche d'exporter la production, premièrement d'abord, c'est la quantité de production. La statistique est encore très basse où nous sommes en train de chercher comment monter le mécanisme afin que nous puissions accroître la production. De 18 tonnes, par exemple, de cacao à 50 tonnes. Là, ça peut passer. Et pour l'huile de palme, si nous arrivons, par exemple, à 25 ou 30 tonnes, ça peut passer. Pour les cafés de 6 à 25 tonnes, ça peut nous aider à faire l'exportation. Parce que les partenaires qui viennent acheter chez nous, ils nous ont recommandé d'avoir beaucoup de tonnes pour qu'ils viennent acheter. Parce que vous savez que c'est une activité commerciale où si quelqu'un vient acheter, il sait qu'il vient acheter une grande quantité pour tel ou tel intérêt. Mais nous nous battons comment accroître la production afin que nous ayons des partenaires.
Pour que la culture pérenne soit rentable dans la province du Maniema, votre société coopérative pense quoi faire dans l'avenir?
Merci Madame la journaliste. Pour nous, SOCECAT, nous envisageons accroître la production à partir de tout ce que nous sommes en train de faire parce qu'avec les hectares que nous avons, nous allons perfectionner le travail afin que nous soyons à 50 ou 60 tonnes de production, par exemple de cacao. Pour l'huile de palme, nous voudrions arriver à 30 tonnes et pour les cafés même à 20 ou 25 tonnes en 2027 afin que nous ayons des partenaires qui viennent traiter avec nous ici au Maniema au lieu de vendre localement.
Est-ce que vous avez l'accompagnement du niveau provincial même?
Bon, nous disons que nous n'avons pas encore d'accompagnement avec le niveau provincial, mais nous allons vers le gouvernement provincial pour qu'il nous accompagne, soit moralement, matériellement et techniquement. Je sais que nous sommes en train de nous rapprocher d'eux pour qu'ils puissent nous accompagner.
Hassani Milimo John, je vous remercie.
Merci Madame la journaliste.
Fin de cet entretien consacré à la promotion du palmier à huile, du café, du cacao comme moteur de croissance au Maniema. Notre invité était John Hassani Milimo, directeur de gestion de la coopérative Tujenge. Il répondait aux questions de Florence Kizalonga. Le journal touche à sa fin. Merci d'avoir été de nôtre. À la présentation Gisèle Cage, à la mise en onde Didoni Nyangasa, une nouvelle semaine d'information s'ouvre et Radio Capi restera à vos côtés pour vous informer, vous éclairer et vous rapprocher détachée de l'actualité qui fait la une. Retrouvez nos contenus à tout moment sur www.radiocapi.net et sur l'ensemble de nos plateformes numériques. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une excellente soirée et vous remercions pour votre confiance renouvelée.